Bah, merci beaucoup de m'accueillir et de me donner la parole. Je m'occupe de ce projet de l'accompagnement de l'Église pendant les Jeux Olympiques. Ça fait un an que je travaille sur ce projet, donc voilà, je suis impressionnée de parler pour vous qui réfléchissez depuis longtemps sur ce lien entre sport et foi. Et je m'interroge surtout sur l'accompagnement pastoral que l'on va pouvoir proposer pendant ce temps des Jeux Olympiques. Donc vous me pardonnerez, voilà, si je n'ai pas approfondi autant que vous toutes ces questions. Un grand merci en tout cas. Moi, les deux temps auxquels j'ai pu participer hier soir et ce matin sont très riches. Ils viennent nourrir notre réflexion. Cette équipe qui s'est montée donc, conjointement entre le diocèse de Paris, la conférence des évêques, qui a vraiment pour but d'accompagner ces Jeux Olympiques sur notre territoire. Alors, j'espère que vous avez entendu parler de cette appellation, cette marque Holy Games. Holy Games, c'est le nom qu'on a choisi pour ce programme, pour ce projet d'accompagnement des Jeux Olympiques, tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de dire Jeux Olympiques. On n'a pas le droit de dire Paris 2024 dans nos communications. Donc, c'est d'abord une opération de communication, se dire comment on va pouvoir investir ce champ. Les Holy Games, Holy, c'est la sainteté. Et donc, je remercie le Père tout à l'heure d'avoir insisté sur notre mission de faire du sport un sport plus humain, notre mission chrétienne. Et Holy Games, c'est ça, c'est Holy, c'est mettre, planter la croix dans cet événement que sont les Jeux Olympiques. C'est aussi réfléchir à la manière dont l'Église peut se positionner différemment dans son rapport au sport. Faire du sport un sport plus humain, un sport ouvert à tous. Et le mot Games, alors c'est en anglais, bien sûr, pour plusieurs raisons, vous l'imaginez bien, pour qu'on puisse aussi toucher ceux qui viendront nous voir, les 15 à 20 millions de personnes qui sont attendues en France et quand même plus particulièrement en Ile-de-France pendant les Jeux Olympiques. Ce mot Games, il est le fruit quand même d'une réflexion, c'est de rappeler que le sport est d'abord un jeu. Et je sais que le père Bertrand Chevrier, qui n'est pas là, mais avec qui on a pas mal travaillé, travaille sur un livre sur le sport comme lieu de jeu. Et donc, on a vraiment voulu rappeler ces deux dimensions, la sainteté, cette aspiration à la sainteté et à un sport plus humain, et puis la dimension importante qu'est le jeu. Je me réjouis aussi que le père ait rappelé tout à l'heure, et commencé par rappeler l'importance de cette couronne. La couronne d'épines. On a fait le choix pour le moment, peut-être que ça évoluera, de ne pas consacrer cet événement des Jeux Olympiques à un saint en particulier. Je sais que les différentes Olympiades, à Rio notamment, ils avaient Saint-Sébastien. Et la particularité de Paris, c'est qu'on a cette couronne d'épines. Et pendant les Jeux Olympiques, il y aura une ostension, cette couronne d'épines. C'est une idée de Monseigneur Marsay et elle fait vraiment écho à ce qu'on vient d'entendre. Voilà, peut-être que plutôt que d'aller chercher un saint qui peut nous inspirer, on aurait pu penser à Saint Jean-Paul II, à Carlo Acutis, peut-être qu'on travaillera sur quand même la venue des reliques de Carlo Acutis pendant les Jeux, mais je crois qu'au cœur de ces Jeux, on va mettre cette couronne d'épines, voilà, qui sera proposée à l'ostension à Saint-Germain-l'Auxerrois, puisque Notre-Dame de Paris ne sera pas réouverte. Mais vous savez que cette fermeture de Notre-Dame nous fait tellement travailler intérieurement sur... Voilà, le symbole de Notre-Dame qui a brûlé, qui rouvrira le 8 décembre 2024. Avec nous, c'est pour nous cette espérance aussi que tous ces événements qui se suivent se répondent les uns les autres, se construisent les uns les autres. Et quand les Jeux paralympiques se termineront le 8 septembre 2024, pour nous chrétiens, la flamme, elle ne s'éteindra pas. Et on aura le 8 décembre Notre-Dame qui rouvrira, comme pour prolonger cette espérance qu'on espère pouvoir porté pendant les Jeux. Alors j'ai commencé en vous mettant cette photo qui date du sommet de septembre 2022, cette rencontre entre le pape François et Thomas Bach. Pourquoi je l'ai mise? Parce qu'il faut, pour penser des propositions spirituelles pendant les Jeux Olympiques à Paris, on est obligé de penser au contexte français, au contexte actuel, qui nous oblige à penser la manière dont on va habiter ce temps. J'ai pas mal rencontré mes homologues de Rio et de Londres, qui m'ont dit ce qu'ils avaient fait pendant les Jeux. Et comme le disait le père tout à l'heure en parlant de Neymar et de la manière dont les sportifs brésiliens vont invoquer Dieu, la manière dont les sportifs invoquent Dieu ou invoquent leur entraîneur pour les remercier à la fin du match. Voilà, on est dans un contexte français qui nous oblige à nous ajuster. À nous ajuster dans notre manière de proposer un accompagnement spirituel. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer deux fois Thomas Bach, donc l'année dernière à Rome, et puis cet été, au mois de juillet. Il est venu lors de la signature d'un parrainage entre LVMH et Paris 2024, donc un événement purement commercial auquel il était invité puisqu'il a largement contribué à cet engagement d'LVMH. Et donc j'ai pu longuement discuter avec lui et j'étais heureuse de cette discussion parce que c'était un moment où on était un peu en tension avec Paris 2024 sur la manière dont l'Église pouvait ou non habiter ce temps des Jeux Olympiques. Et donc j'ai rencontré Thomas Barr, mais de manière assez informelle, une discussion. Je me présente et la première chose qu'il me dit, c'est: je suis heureux de vous rencontrer parce que quand j'ai rencontré le président Macron au sujet des Jeux Olympiques, la première chose que je lui ai demandé, c'est une messe d'ouverture à Notre-Dame. J'étais tellement heureuse de l'entendre me dire ça. Dans ce contexte français où on vient nous dire, mais en fait, voilà, la spiritualité, c'est du domaine complètement intime, on ne veut pas forcément trop vous voir. Donc c'est un point d'appui important pour nous, hein, que cette rencontre au Vatican l'année dernière, que moi cette rencontre cet été avec Thomas Barr, qui vient conforter l'idée que oui, l'accompagnement spirituel et sportif est fondamental. En France, on a quand même tendance à, voilà, à repousser ça plus loin, ou vraiment dans le domaine du privé. Et je trouve ça fondamental pour nous, pour ce projet, de se dire, voilà, le CIO vient nous rappeler que oui, l'accompagnement spirituel fait partie de l'accompagnement des sportifs. Et pourquoi du coup cette photo? Ben parce que le seul mandat qu'on reçoit, nous, l'Église catholique, pour ces Jeux de Paris, le seul mandat qu'on a reçu, c'est celui du CIO, par l'intermédiaire de Paris 2024, c'est d'animer l'aumônerie du village olympique. C'est-à-dire que le CIO ne demande pas une messe d'ouverture, le CIO ne demande pas des messes, des temps de prière, rien du tout, hein. La seule chose qu'on nous demande, c'est l'animation de cette aumônerie au cœur du village. Et ça dit déjà beaucoup. C'est quand même, on va le voir pendant les JO, le village des athlètes, c'est le Saint des Saints. Moi, je vois déjà là, avec la préfecture de police avec laquelle on travaille, la protection des athlètes pendant les Jeux, ça va être la priorité absolue. C'est-à-dire que s'il y a un drame qui touche un athlète, voilà, c'est un échec total. Donc ce village olympique, c'est le Saint des Saints, hein, pendant les Jeux. Et pour se dire qu'au cœur de ce village, il y aura la présence de Dieu, par notre présence et celle des autres religions, c'est vraiment important et c'est beau. Et j'ai envie de dire merci au CIO de nous permettre cette présence obligatoire. Voilà. Paris 2024 n'aurait sans doute pas pensé à cette proposition si le CIO ne l'avait pas mis dans son cahier des charges. Alors, il faut quand même avoir vraiment en tête ce contexte qui est pas simple pour nous. On est sur une ligne de crête dans nos relations avec Paris 2024, dans nos relations avec le CIO, dans la manière dont on parle des Jeux Olympiques. Voilà, on a été convoqué début septembre par Paris 2024 qui nous a dit: vous faites trop de bruit. Vous avez parlé des JO au JMJ. On était content de voir qu'ils suivaient. Ils suivaient. Effectivement, on a eu la chance, la CEF nous a proposé, à la matinée des Français, où il y avait 40 000 jeunes réunis, de parler des JO. Et de dire aux jeunes, cet été, vous recevez une flamme incroyable, vous allez repartir des JMJ avec ce désir de témoigner, d'être missionnaire. Et bien, dans un an, il y a les JO, on accueille 20 millions de personnes, et à votre tour, vous pourrez être accueillant et missionnaire, témoin de votre foi. Bon, ça n'a pas beaucoup plu à Paris 2024, donc on a pu en rediscuter avec eux. Vous voyez, hein, cette tension qu'il y a en France, et c'est. Alors, on est allé s'interroger sur le pourquoi de ces relations, qui sont en fait très franco-françaises. Et donc, ce lien, et la présence du Vatican est très importante pour nous, et ce lien avec le CIO aussi nous permet d'avancer. Voilà, on trouve un chemin paisible avec Paris 2024, mais c'est vous dire, voilà, la ligne de crête sur laquelle on se trouve. Alors, ce projet Holy Games, voilà, je pense que un certain nombre d'entre vous ont déjà pu voir certains éléments de ce projet. Il y a quatre dimensions dans ce projet Holy Games. On s'est appuyé sur une phrase du pape François qui dit: le sport peut être un instrument de rencontre, de formation, de mission et de sanctification, d'où ces quatre axes: la solidarité, l'éducation, la mission et la spiritualité. Donc voilà, pendant les JO, il y aura vraiment ces quatre dimensions et je vais vous parler tout spécialement de la dimension spirituelle puisque c'est ce qui m'a été demandé ce matin, même si voilà, ces quatre axes, bien sûr, sont liés. Quand les jeunes vont être appelés à la mission, il y a bien sûr des temps spirituels qui vont être proposés. Et je vais parler tout particulièrement de ce bloc bleu, qui sont les propositions spirituelles qu'on va développer pendant les Jeux. Alors, la première chose qu'on a fait il y a un an, c'est de rédiger une prière pour ces Jeux Olympiques. Voilà, on s'est dit, notre première mission en tant que chrétien, c'est de prier pour cet événement. Le père tout à l'heure disait que le sport est une occasion de fraternité. Voilà, notre pays a besoin d'unité. Et on est convaincu que ces Jeux Olympiques, même si on sait qu'on va passer par beaucoup de critiques, par des moments de tension, par des manifestations anti-JO, ça peut quand même être une belle occasion de se rassembler, de vivre ensemble un projet commun. Donc on a écrit cette prière. Et cette prière, on a pu la remettre à Tony Estanguet. Ça a été un moment très précieux parce que quand je lui ai remis cette prière, hein, c'était au mois de février, je lui ai dit voilà, qu'on priait depuis, pour lui, pour ses équipes, pour l'organisation, depuis le mois de septembre. Il était extrêmement touché. Cette prière à deux mains, il m'a dit trois fois « Merci, vous n'imaginez pas combien je suis touchée que vous priez pour nous. » Voilà, donc je vous le dis, prions, prions vraiment pour que les organisateurs de Paris 2024, pour que nos équipes, pour que voilà, nous tous qui serons en position d'accueil de ce monde entier, cet événement soit vraiment une occasion de grandir ensemble vers plus d'unité et de fraternité. Donc cette prière, elle est importante. Et puis le deuxième point, c'est qu'on a confié cet événement Jeux Olympiques et puis toutes les propositions qui vont être portées par notre Église à l'occasion de ces Jeux aux sœurs de Poligny, qui prie depuis le mois de janvier et à qui on envoie, j'en reparlerai tout à l'heure, toutes les intentions de prière qui sont déposées à la chapelle des sportifs. Donc voilà, il y a cette prière constante pour cet événement Jeux Olympiques. Alors la première chose à laquelle on va s'attacher pour l'accompagnement spirituel des Jeux, ce sont les athlètes, les sportifs. Comment prendre soin de ces sportifs? Comment les accompagner? Certains d'entre vous étaient présents à cette journée du 9 septembre où une chapelle a été dédiée, a été bénie pour les sportifs au cœur de l'église de la Madeleine. L'église de la Madeleine sera le point central de l'accompagnement spirituel à Paris pendant les Jeux Olympiques. Voilà, Notre-Dame étant fermée, c'est la Madeleine qui a été choisie. Je pense que c'est une bonne idée. Ça a été fait à moi avant mon arrivée. Voilà, rien que sur le plan architectural. La Madeleine nous dit quelque chose du lien avec les Jeux antiques, sur sa position géographique vraiment au cœur de Paris, sa dimension internationale. Il faut savoir que les étrangers qui viennent à Paris cochent la Madeleine comme un lieu à visiter parce qu'il y a aussi beaucoup de concerts. Voilà, donc c'est un lieu central où il y a constamment des visiteurs. Et dans cette chapelle, il y a cette très belle statue de Notre-Dame, qui est désormais Notre-Dame des sportifs. Et donc le 9 septembre, le lendemain de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, cette chapelle a été bénie. Est désormais un lieu pour accueillir les intentions de prière, les demandes d'accompagnement spirituel, les demandes d'intercession. Il y a un écran tactile et les gens peuvent donc déposer leurs intentions de prière qui seront envoyées aux sœurs, qui seront portées dans la prière, et peuvent demander à rencontrer un aumônier du sport. Et là, j'y reviendrai, ça veut dire qui sont nos aumôniers du sport? Voilà, c'est une question qu'on doit travailler. Ils peuvent demander une messe à une intention particulière. Et voilà, et on est surpris par le nombre de demandes que l'on reçoit. C'est assez touchant, moi je reçois sur mon ordinateur, donc voilà. Une nouvelle intention a été déposée, une nouvelle demande d'intercession, une demande de rencontre avec un aumônier. Et toutes ces demandes sont prises en compte par Jason Yoka, qui est un diacre, qui sera ordonné prêtre normalement au mois de juin, qui est un ancien judoka de haut niveau, qui fait partie du Pôle France, et qui coordonne tout cet accompagnement spirituel, qui reçoit toutes les intentions et qui répond aux sollicitations. Donc à l'occasion de cette bénédiction, vous voyez qu'il y a eu un certain nombre de maillots qui ont été envoyés, qui ont été bénis. Voilà, et c'est un lieu qui va pouvoir sur la durée accueillir des équipes, des jeunes, des paroissiens qui viennent faire un running, des paroissiens qui viennent à vélo, des jeunes qui viennent en aumônerie. Voilà, il y a eu bien d'autres expériences, je pense à ce que vous avez fait pendant le Tour de France. Et on est toujours surpris de ce bel accueil, y compris des médias. Je me dis, tiens, mais l'Église a quelque chose à dire de beau, de bien. Et moi, je suis étonnée du regard positif du monde sur ce type de proposition. Donc la chapelle Notre-Dame des sportifs, peut-être si on continue, l'accompagnement spirituel des sportifs, c'est aussi accompagner des sportifs de haut niveau. Alors, on est prudent dans cette démarche. Parce que l'idée n'est surtout pas de faire de ces grands sportifs connus des jeux, des héros, mais plutôt de prendre en compte le fait qu'ils sont regardés par nos jeunes, ils sont regardés par nous aussi, ils ont quelque chose à nous dire, ils sont eux aussi appelés à être missionnaires. On a eu deux très belles expériences, alors celle du pèlerinage à Rome au mois de mars avec Mgr Hugo Billard et l'équipe du Variété Club de France, donc tous ces anciens grands noms du foot, avec lesquels on a vécu une expérience absolument incroyable. Voilà, je retiens Christian Carambeux disant le soir de cette grande journée avec la rencontre avec le pape, avec la messe à 8h du matin à Saint-Pierre de Rome, disant le soir sur les antennes de KTO, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi aujourd'hui. Robert Pires nous disant, moi je prie tous les matins pour rendre grâce pour les dons et les talents que Dieu m'a fait. Voilà, donc cet accompagnement spirituel des sportifs de haut niveau et des grands sportifs, il vise aussi à libérer peut-être la parole de certains, à les encourager à se laisser pétrir par la présence de Dieu dans leur vie. Il y a beaucoup de sportifs, voilà, qui sont de tradition chrétienne et qui, voilà, ont peut-être ce désir de ranimer leur foi. On a vécu cette belle expérience à Rome et puis cette étonnante aussi expérience. C'est le fruit d'un an de travail, la venue du 15 de France à Notre-Dame. Ça fait tout juste un an qu'on a commencé à monter ce projet. Ça a été très complexe, pour tout vous dire, à mettre en œuvre. On reçoit un coup de téléphone mi-juillet de Fabien Galthié nous disant, pendant toute la préparation vers cette Coupe du Monde de rugby, on a un jour off, c'est le 3 août, on vient visiter Notre-Dame. C'est une proposition qu'on leur avait faite plusieurs mois auparavant. Et donc, la branle-bas de combat, on appelle le recteur de Notre-Dame, on appelle le général Georges Lain, il nous dit le 3 août, vous êtes sympa, mais en fait, tout le monde est en vacances. Et puis, en fait, Notre-Dame, c'est pas un musée, on travaille, on n'a pas le temps de faire ça. Ça a été assez rude. Et pourtant, le Seigneur était présent. Il y a eu des choses très étonnantes qui se sont passées. J'ai croisé par hasard le général Georges Lain dans la rue, alors qu'inutile de me dire que je le croise quand même rarement. Donc, j'ai pu lui en parler. Il était hyper motivé par ce projet. Et puis, 3 semaines après, il meurt dans un accident. Donc, voilà, des choses étonnantes qui se passent. Et il y a maintenant 15 jours, Fabien Galthié nous recontacte en nous disant, si on gagne contre l'Italie, on veut aller à Notre-Dame 3 jours avant le match contre les Boks. C'est une demande de l'équipe de France. Vous voyez, c'est cette. Qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que c'est juste de la superstition. Mais en tout cas, dans cette démarche de l'équipe de France, d'unir une équipe, de créer cet esprit d'équipe dont on parlait tout à l'heure, de forger quelque chose qui parle à la nation, parce qu'ils ont un rôle aussi de représenter notre pays, de réjouir la nation. Ils ont voulu, au cœur de tous ces événements, aller à Notre-Dame. C'est Notre-Dame brisée, c'est Notre-Dame qui se reconstruit. Et on a trouvé ça symboliquement étonnant. Donc, on a quand même beaucoup œuvré. On a fait intervenir l'archevêque de Paris et le nouveau directeur de l'établissement public pour cet événement ait pu se dérouler. On a pu leur remettre un maillot de l'Athletica Vaticana, signé du pape François. Ça a été un moment assez émouvant. Fabien Galthié, voilà, était très touché. Et ce qui nous surprend le plus, c'est qu'ils aient perdu. Et en fait, c'est très beau. C'est très beau parce que certainement qu'il y avait cette part de « on va aller à Notre-Dame, puis on va gagner ». Et Monseigneur Marcel nous avait alerté, nous disant « faut pas que ce soit ça qui se passe ». Et dans cette défaite, vous parliez tout à l'heure de la défaite, de l'échec. Et on se dit qu'on a quelque chose de très beau à construire, à continuer à bâtir avec eux dans voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans l'échec, comment les accompagner dans cette épreuve, parce que je pense que c'est une grosse épreuve pour eux. Donc voilà, nous on continue à prier Notre-Dame pour qu'elle vienne apaiser cette douleur et continuer à les accompagner. Voilà, bon, c'est juste un petit exemple de peut-être de ce qui s'ouvre à nous grâce à ces Jeux Olympiques, grâce à cette Coupe du Monde de rugby, qui sont des événements importants et qui ouvrent un champ vraiment très, très nouveau et dans lequel on sent cette soif incroyable des sportifs, que l'Église les accompagne et que l'Église pose un regard sur leur activité. Voilà, pendant les Jeux, je vous disais tout à l'heure, ce qui nous est demandé, c'est d'accompagner les sportifs sur le village. Donc, on est en train de constituer un pool de 24 aumôniers. Alors, ceux qui sont dans cette salle, vous êtes potentiellement peut-être des futurs aumôniers du village. N'hésitez pas à vous manifester. On est en train de constituer ce listing. Ça peut être des laïcs, bien sûr, des prêtres. Le but étant quand même que voilà, vous ayez une bonne connaissance du sport, voilà, de la relation à l'échec, de la relation à la pression. On n'a pas encore la certitude du nombre d'accréditations qu'on aura. C'est encore en discussion avec Paris 2024. On a fait cette demande de 24 accréditations. Voilà, c'est un événement unique dans notre histoire, pour notre pays. Donc, c'est un événement important et qui nous interroge sur en fait, où sont nos aumôniers du sport? Qui est formé à l'accompagnement des sportifs de haut niveau? Et pour beaucoup travailler avec nos frères protestants et avec les évangéliques, on est tellement en retard. Alors, je sais, je suis sûre que parmi vous, il y en a qui accompagnent des sportifs de haut niveau. Mais quelle formation on se donne? Alors, on a par exemple les aumôniers d'hôpitaux, les aumôniers de prison, ils sont formés, ils ont une pastorale, ils sont accompagnés. Qu'est-ce qu'on fait pour voilà, ceux qui accompagnent les sportifs de haut niveau? Donc, oui, on est peut-être aux prémices, et tant mieux si ces JO viennent nous bousculer un peu et vont nous forcer à créer cet accompagnement pour former les aumôniers du sport. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'inauguration de la chapelle Notre-Dame des Sportifs à Paris a été aussi l'occasion pour Mgr Marcet d'annoncer l'inauguration d'une aumônerie nationale du sport. Voilà, donc ils sont en train de rédiger avec la CEF les statuts de cette aumônerie nationale. Donc vous voyez, tout ça, ça arrive un peu tard par rapport aux JO qui sont presque demain, mais voilà, ça nous invite quand même à accélérer et à nous obliger à penser la formation. Donc voilà, cette aumônerie du village olympique sera un lieu d'accueil, un lieu de prière, un lieu d'écoute, pas nécessairement un lieu pour pouvoir célébrer des offices. Ben, ça ressemble un petit peu aux salles dans les aéroports, hein, aux salles multiconfessionnelles. Et donc, on a fait ce choix, mais qui me semble assez évident, de pas célébrer la messe sur place. Et surtout parce qu'on aura la chance d'avoir à peu près à 50 mètres du village olympique une église, l'église de Saint-Ouen-le-Vieux. Et on a obtenu de Paris 2024 qu'il y ait une porte, une ouverture du village olympique, juste derrière le centre multiconfessionnel qui donne un accès direct à cette église. Donc on pourra célébrer des messes pour les athlètes. Donc ce sera vraiment l'église des athlètes, Saint-Ouen-le-Vieux, avec des messes dans différentes langues. On pourra relayer l'information sur le village directement pour que les sportifs qui le souhaitent puissent avoir la messe dans leur langue. Il y aura un temps fort la veille de l'ouverture des Jeux, qui sera donc le 25 juillet, une veillée de bénédiction pour les athlètes, qui aura lieu à Saint-Denis, qui aura lieu à Saint-Denis, la basilique de Saint-Denis qui est la plus proche et puis qui symboliquement aussi dit quelque chose du fait que Paris 2024 ait choisi d'implanter son village là-bas. Donc cette veillée de bénédiction des athlètes, on va essayer d'y convier les athlètes. Honnêtement, on ne sait pas très bien qui pourra venir, mais c'est symboliquement important de dire qu'on va prier pour eux. Il y aura tous les jeunes qui vont venir nous aider à porter la mission pendant l'été des JO. Donc voilà, la basilique sera certainement bien remplie. On donnera symboliquement à ces sportifs une médaille miraculeuse. Voilà, puisqu'à Paris, il y a aussi cette rue du Lac, qui est un vrai lieu de pèlerinage. C'est-à-dire que les délégations qui viennent, je pense aux délégations portugaises, aux délégations brésiliennes, je suis convaincue qu'il y en a qui vont venir en pèlerinage à la rue du Bac. Et voilà, je vous ai remis cette photo du Usain Bolt qui courait avec la médaille miraculeuse. Et ce n'est pas le seul, hein, il y a une haltérophile philippine aussi qui, au dernier JO, avait montré cette médaille miraculeuse. Donc il y a pas mal de sportifs chrétiens qui courent avec cette médaille miraculeuse. Donc voilà, c'est un peu un rappel aussi de ces symboles importants. Où est-ce qu'on met l'essentiel de notre quête sportive. Alors pendant les Jeux, on va commencer ce temps des Jeux Olympiques par une messe d'ouverture. Alors je vous dis ça, messe d'ouverture des Jeux Olympiques, en réalité on ne pourra pas l'appeler comme ça. Donc, si on revient à ce que je disais au tout début, on n'a pas ce mandat d'organiser une messe d'ouverture des Jeux Olympiques. En discutant avec Paris 2024, et c'est assez beau parce que c'est eux qui nous l'ont suggéré, on va proposer une messe le jour de la trêve olympique, c'est-à-dire 7 jours avant les JO. Et quand on discutait avec Paris 2024, avec ce désir de proposer une messe à l'occasion de l'ouverture des Jeux, ils me disaient, ben voilà, si votre désir c'est de prier pour la paix, prier pour les nations, ben voilà, l'ouverture de la trêve olympique, ça a vraiment du sens. D'où cette date du 19 juillet, avec une messe des nations, qui fait vraiment écho à 1896 et cette messe, pour le coup d'ouverture, que Pierre de Coubertin avait demandé au père Henri Didon, à Athènes. Cette messe, elle fera aussi écho à 1924. Et là encore, c'est lorsque j'ai discuté avec Thomas Bach cet été, c'est lui qui m'en a parlé spontanément. Quand il me disait ce désir d'avoir une messe à Notre-Dame, il me dit « on ne peut pas ne rien avoir à Notre-Dame, ce n'est pas possible ». En 1924, il y a eu une messe. Et donc, il m'a envoyé, alors peut-être que vous, les uns les autres, vous aviez déjà ces archives, mais il m'a envoyé certains éléments d'archives que je vous partagerai volontiers, qui sont vraiment intéressants, sur cette célébration qui a eu lieu à Notre-Dame en 1924. Et où j'ai découvert qu'il y avait les mêmes polémiques qu'aujourd'hui. Vraiment étonnant. Bien sûr, mais qu'est-ce que l'Église vient faire là-dedans? Pourquoi un office catholique? Bon, donc vous voyez que finalement, tout ça est d'une grande constance, mais Dieu est fidèle. Donc voilà, les questions sont un peu toujours les mêmes, mais on est toujours présent. Donc voilà, cette messe aura lieu donc à la Madeleine. Et donc on travaille sur. On veut que ce soit une messe qui dise vraiment quelque chose de la présence de toutes les nations. Donc seront invités. Des ambassadeurs qui représentent leurs États, seront invités les comités nationaux olympiques, seront invités les sportifs. L'idée étant qu'il y ait au moins un représentant des 206 nations qui seront présentes aux Jeux Olympiques. Thomas Bach nous a déjà confirmé sa présence, ce qui est pour nous très important parce qu'en fait, ça institutionnalise quand même cette messe. Potentiellement, On a aussi invité le président Macron, puisque si Thomas Barella est potentiellement tenu de venir aussi. Et quand j'avais pu rencontrer Emmanuel Macron lors d'une rencontre réunissant tous les acteurs de Paris 2024, je lui ai parlé de cette messe en lui disant c'est votre paroisse, puisque la Madeleine est voilà, 10 minutes, même pas, voilà, quelques minutes à pied de l'Élysée. Donc je lui ai dit vous serez bienvenue à cette messe. En tout cas, vous voyez, cette messe, elle sera un peu institutionnelle, volontairement, parce que. Elle veut dire quelque chose du désir de l'Église de prier pour la paix pour les nations. On aura une messe de clôture des Jeux. Volontairement, on ne va pas clôturer les Jeux Olympiques, on clôturera les Jeux Paralympiques. L'idée étant vraiment de dire cette continuité entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques pour rappeler combien pour l'Église il y a cette même dignité des athlètes olympiques, des athlètes paralympiques. On va pas. C'est assez violent, hein. Moi, c'est Marie-Amélie Le Fur, qui est la présidente du comité paralympique, qui nous disait cela quand on l'a rencontrée. Elle nous disait, c'est violent pour un athlète paralympique que la flamme soit éteinte à la fin des Jeux olympiques. C'est vraiment dire, bon allez, voilà, les Jeux, c'est fini, on attaque un autre truc qui n'a pas grand intérêt, on va leur faire plaisir en allumant une autre flamme. Parce que de fait, c'est vraiment une autre flamme qui vient d'Angleterre, c'est une autre histoire, effectivement, c'est pas porté par le CIO. Et elle me disait la violence que c'était pour eux. Et quand je lui ai dit, écoutez, ben voilà, nous, l'Église, on s'engage à garder cette flamme allumée, et on verra comment, notamment à la Madeleine, dans toutes les églises qui le souhaiteront, on manifestera le fait que voilà, la flamme, elle ne s'éteint pas, de même qu'elle ne s'éteindra pas réellement à la fin des Jeux paralympiques, comme je vous disais tout à l'heure, puisqu'on a cette flamme de l'espérance qui, nous, ne va pas s'éteindre avec la fin des Jeux. Donc voilà, donc une messe de clôture à des Jeux paralympiques qui aura lieu à Saint-Denis, qui sera vraiment, pour le coup, une messe d'action de grâce, une messe fraternelle, portée sur la fragilité, sur le handicap, sur la diversité de nos cultures. Voilà, donc vraiment une messe ouverte à tous qui sera télévisée sur France TV, puisque c'est un dimanche, donc ce sera le jour du Seigneur, la messe du jour du Seigneur. Oui, c'est le 8 septembre, voilà, jour de clôture des Jeux paralympiques. Un point intéressant aussi, c'est que Tony Estanguet nous a dit, mais est-ce que vous aurez des messes en différentes langues? Et je trouve ça génial que ce soit lui qui nous pose la question, puisque c'est une demande qu'il a reçue. Ça veut dire que les délégations, et je pense que ça surprend un peu Paris 2024, où elles leur disent, mais en fait, nous, on aimerait bien pouvoir
Bien sûr.
avoir des messes dans nos langues. Donc voilà, même si ce n'est pas une demande officielle, il nous a relayé cette demande. Et donc, bien sûr, là, on travaille sur un mapping des églises de Paris, d'Île-de-France, pour voir comment, de manière intelligente, proposer soit des messes liées à un sport, donc tout proche des sites olympiques, on aura des églises dédiées à un sport. Il y a déjà 30 paroisses d'Île-de-France qui ont officiellement confirmé leur choix d'être église Holy Games, donc vraiment ouverte pendant les Jeux. Et donc les paroisses proches des sites olympiques seront dédiées à un sport. Et puis il y aura des paroisses plutôt dédiées à des pays, avec des messes dans les langues de différentes délégations. Et puis à la Madeleine, il y aura chaque jour une nation mise à l'honneur, ou voilà, une langue mise à l'honneur. Et donc là encore, on cherche des aumôniers qui parlent différentes langues, qui puissent accueillir dans différentes langues. C'est complexe pour nous, hein, parce que ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu les Jeux, donc inutile de vous dire que c'est compliqué de savoir. On me dit toujours, mais alors il y aura combien d'hispaniques, combien. Je ne sais pas très bien. La situation aussi de la sécurité dans notre pays fait qu'il y a peut-être des gens qui ne vont finalement pas venir. On sera peut-être très franco-français. Hein. Lors de l'ouverture des billets, 66% des billets avaient été achetés par des Français. Voilà, donc. On ne sait pas exactement à quoi la population va ressembler, mais on se prépare à toutes les possibilités pour répondre aux demandes. Voilà, donc déjà 28 paroisses Holy Games en Île-de-France, qui donc sont ces paroisses qui seront habillées avec les couleurs Holy Games, qui auront leur parvis animé par des jeunes, puisque à la suite des JMJ, on invite vraiment les jeunes à venir vivre les JO en Île-de-France. Et puis, c'est une proposition qui est faite à toute la France. Il y a déjà 28 diocèses qui ont nommé un délégué diocésain et qui donc vont porter un projet local parce que, bien sûr, il n'y a pas les JO qu'à Paris, et les délégations seront sur toute la France. Il y a aussi cette importance de l'ouverture au monde. Et ça, c'est presque une évidence, hein. On travaille beaucoup avec les protestants, avec les orthodoxes aussi. Et de fait, avec les autres religions, on a déjà eu trois rencontres pour travailler sur l'aumônerie du village. C'est des rencontres qui sont très très émouvantes. Hein. Quand on est assis à table avec le rabbin à côté de l'imam, à côté des représentants chrétiens, des bouddhistes, des hindouistes, c'est assez rare. C'est des moments précieux et on a l'impression de porter quelque chose de fort, de significatif, qui nous pousse à vraiment chercher une unité dans notre mission. Et donc, L'accompagnement spirituel pendant les Jeux, c'est aussi œuvrer à l'unité des chrétiens. On travaille sur un événement œcuménique qui s'est quasi acté et qui se déroulerait le 8 mai. C'est une date importante. D'abord, bien sûr, le 8 mai est importante pour signifier la paix, la recherche de paix, mais aussi c'est la date de l'arrivée de la flamme sur le territoire, puisque la flamme arrivera à Marseille le 8 mai. Donc on a choisi cette date pour signifier l'unité des chrétiens. Et on a visité le stade Pierre de Coubertin qui se trouve à Paris, porte de Saint-Cloud, et qui est disponible. Donc on envisage donc un événement ce jour-là, une après-midi foot, sport, foi, témoignage, louange avec nos frères chrétiens. Et voilà, donc c'est un beau projet qui se monte et qui voilà cette date symbolique en amont de l'ouverture des Jeux. Et puis on travaille sur une rencontre interreligieuse, et ça c'est le fruit d'une demande de l'archevêque de Paris, qui dès le début m'a dit la messe d'ouverture c'est très bien, mais ça n'a de sens que si on a un triptyque œcuménisme, travail interreligieux et bien sûr nos propositions catholiques. Donc il m'avait lancé ça, il m'avait dit il faut qu'il y ait quelque chose d'interreligieux. Et quand j'ai rencontré Thomas Barr, on discutait donc de Notre-Dame, du parvis de Notre-Dame. Et quand il m'a dit qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose sur le parvis de Notre-Dame qui rassemblerait différentes religions, on s'est dit, voilà, c'est peut-être ça sur lequel il faut travailler. Donc on travaille sur un événement interreligieux le jour de la clôture des Jeux Olympiques, le 11 août, sur le parvis, qui serait une rencontre avec les représentants des différentes religions. Pas un temps de prière, parce que c'est compliqué de prier ensemble, mais une rencontre donnant la parole à chacun des représentants religieux, avec, on espère aussi, la possibilité pour les cinq représentants d'entrer dans Notre-Dame. Vous savez que c'est quand même très compliqué d'entrer dans l'église elle-même, puisque voilà, avec les travaux, c'est vraiment compliqué. C'est une heure de douche, de changement d'habit, etc. Donc, mais on espère symboliquement pouvoir organiser cette rencontre dans Notre-Dame des représentants religieux pour signifier combien le sport peut permettre cette rencontre, même dans nos diversités religieuses. Voilà, je crois que je voulais terminer avec quelques images, voilà, qui vous disent que les propositions spirituelles, elles sont manifestes dans toutes nos propositions sportives que l'on porte depuis le mois de juin, puisque depuis le mois de juin, on a eu un certain nombre d'événements. Il y a eu la Pater Cup qui a rassemblé plus de 100 prêtres d'Île-de-France. Le père Bruno était là, c'était un bel événement. On va recommencer en juin prochain. Un temps très, très fraternel, un temps gratuit, voilà, entre prêtres. Et donc, on aspire à refaire ça cette année. Et puis, on a eu d'autres événements comme des retransmissions de matchs de rugby. Et puis, notre désir de ne pas faire que des choses voilà, entre catholiques. Donc, la Providence a fait que la fan zone pendant la Coupe du Monde de rugby est à la Concorde, donc à 100 mètres de la plaine. Et donc, on a organisé des temps de prière à la chapelle Notre-Dame des Sportifs, puis temps festif à la fan zone, voilà, avec nos t-shirts, par ta victoire, grandit son éclat. Voilà, qu'il faut que les gens viennent nous parler, nous interpeller. Le père parlait hier, en parlant du sport, de l'évangélisation. Est-ce qu'il avait utilisé le mot passive, quelque chose comme ça, hein.
Oui.
Voilà. Et c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire que porter un t-shirt, il n'y a pas besoin de dire grand-chose, mais les gens viennent à nous. Et puis on a organisé des courses, ou participer à des courses. Et là encore, c'est vraiment intéressant parce que la course, elle est, là, c'est un sport qui peut être pratiqué par tous parce que les courses maintenant sont ouvertes. Voilà, il y a des marches, il y a des possibilités de courir avec des fauteuils. Et je vois le père qui a participé à la course de Saint-Denis, c'était un très beau moment. Voilà, qui reliait le Sacré-Cœur de Montmartre à la basilique du Saint-Denis, où on s'est appuyé sur ce chemin étonnant que Saint-Denis a parcouru, lui, de Montmartre à ce qui est aujourd'hui la basilique. On a voulu refaire ce chemin ensemble le jour de la Saint-Denis. Ça a été un très, très beau moment sur le diocèse de Saint-Denis avec une cathédrale archi-pleine, comme peut-être, je ne sais pas, il y a longtemps, je crois que ça n'avait pas été aussi plein, ce que me disait l'évêque. Voilà, donc le sport, bien sûr, est l'occasion de témoigner de notre foi, d'entrer en lien avec d'autres. À la course de Saint-Denis, moi j'étais touchée par voilà, la mixité des populations. Il y avait des Parisiens, il y avait des jeunes de Drancy, de Bobigny. C'était une vraiment belle rencontre, une belle occasion de rassembler des personnes de différents horizons. Donc juste pour terminer, juste avec la dernière phrase, je crois que j'ai mise, qui est tirée d'une des lectures de cette semaine. Le Seigneur m'a assisté, m'a rempli de force pour que par moi la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Voilà, c'est notre mission avec ces Jeux Olympiques, toutes ces nations qui viennent à nous, qui vont peut-être nous surprendre. Hein. On est tellement pétri par cette culture française où la foi doit rester cachée que je pense qu'on va être surpris. Et quand on voit tous ces gestes sportifs qui n'hésitent pas à montrer leur foi, on va se laisser déroger par ce que ces nations ont à nous dire. Mais soyons à la hauteur aussi. Et on a un grand enjeu d'hospitalité à cette occasion. On voit la société très crispée, là, il y a les jeux qui arrivent, on n'en veut pas, on n'a pas que ça à faire, ça va coûter cher. Alors, réjouissons-nous de cet événement qui nous est donné. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les jeux, et ça fait probablement qu'on ne les reverra pas de sitôt. Donc faisons de cet événement une occasion d'annonce de la bonne nouvelle, de partage avec les nations qui viennent à notre rencontre grâce au sport.